nzamba
nzambira samirana
Merci d'être à ce rendez-vous de l'actualité en français sur la radio Inzamba à Gate Kakawe, les titres de ce samedi 14 août 2021. Bilan macabre, en deux ans, 72 corps ont été retrouvés dans la rivière Rusizi. Le Forum pour la conscience et le développement dénonce le silence des autorités burundaises sur ces crimes et réclame une enquête indépendante pour éclaircir les circonstances de la mort de ces personnes. Pas de répit pour les militants du parti d'opposition SNL. Trois leaders de ce parti dans la commune Kibago au sud du pays sont sous les verrous depuis hier. Ils sont poursuivis pour collecter de l'argent pour la construction d'un bâtiment qui abritera une permanence de leur parti dans cette commune. Le prix du kilo de la feuille verte est revu à la hausse. Une décision récemment prise par le ministère de l'Agriculture. Qu'en pense le théiculteur ? Réponse dans le mini-magazine de ce samedi. Voilà pour le sommaire. À la présentation, Josephine Jones-Wundemann.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
72 corps sans vie ont été découverts en l'espace de deux ans au bord de la Rusizi, une rivière à la frontière entre le Burundi et la RDC. La plupart de ces personnes ont été tuées sous le régime du président Evariste Ndayishimiye. Révélation du Forum pour la conscience et le développement initiateur de la campagne Ndondeza contre les disparitions forcées au Burundi. Cela pousse l'organisation à qualifier la rivière Rusizi d'abattoir des humains. Pour Pacifique Nina Hadwe, président du FOCODE, cela montre que la situation des droits de l'homme au Burundi continue à se détériorer. On écoute Pacifique Nina Hadwe, président du FOCODE.
Des crimes extrêmement graves qui sont commis au bord de la rivière Rusizi. Rusizi qui, à notre avis, est devenu comme un abattoir des humains. Nous rappelons le nombre extrêmement important de cadavres qui continuent à être découverts au bord de la Rusizi dans les communes de Buganda et Rugombo en province de Cibitoke. Nous avons pu consulter des articles qui évoquent qu'en l'espace de deux ans seulement, de juin 2019 à juin 2021, au moins 72 corps ont été découverts au bord de la Rusizi dans ces deux communes. Et sur les 72 corps qui ont été trouvés, 40 ont été découverts sous le régime du président Evariste Ndayishimiye. Ce qui signifie que l'arrivée du président Ndayishimiye n'a pas amélioré la situation des droits de l'homme, mais plutôt les violations ont pris une ampleur encore plus importante que ce qu'on voyait sous le régime de Pierre Nkurunziza. Notre déclaration a évoqué 7 cas de disparition forcée. Ici, il s'agit essentiellement de personnes qui ont été arrêtées par des corps de sécurité, soit qu'elles étaient accusées d'aider des gens à traverser la Rusizi, soit qu'elles venaient elles-mêmes de traverser la Rusizi dans les deux communes. Il s'agit d'Isaïe Ndayarundwa et de cette Gabrielle Butoyi, arrêtées par le renseignement militaire en commune Buganda. Il s'agit de Ivan Ndayishimiye et de Jean-Marie Nahayo, arrêtés en commune Rugombo, alors qu'ils venaient de traverser la Rusizi. Il s'agit enfin de trois adeptes de la prophétesse Zebia Ngendakumana, qui ont été arrêtés en novembre 2020 en commune Rugombo. Sur les 7 victimes de disparition forcée, 5 ont disparu sous le régime d'Evariste Ndayishimiye.
Le FOCODE demande par ailleurs aux Nations Unies de prolonger le mandat de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi. Cela permettrait à faire la lumière sur les crimes qui continuent à être commis au Burundi. Encore une fois, Pacifique Nininad.
Notre déclaration évoque aussi d'autres cas de disparition au bord de la Rusizi, des cas qui nous ont été communiqués par les familles des victimes. Nous avons également évoqué des cas d'assassinat à la Rusizi. Nous avons donné à titre d'illustration les noms du professeur Frank Yandoka, un pasteur béninois dont le cadavre a été trouvé en commune Buganda en avril 2021, mais aussi du Congolais Munyamurenge Onesphore Rohingya dont le cadavre a été découvert en mai dernier en commune Rugombo. Dans ces situations, il n'était pas difficile de trouver les auteurs de ces crimes, mais comme l'impunité reste la règle, les miliciens Imbonerakure soupçonnés d'avoir commis ces crimes n'ont pas été inquiétés. Notre déclaration salut des initiatives d'alerte menées par la radio publique africaine RPA et le journal SOS Média Burundi, des initiatives qui ont sauvé des vies des personnes qui allaient traverser la Rusizi ou qui venaient de traverser la Rusizi, et nous encourageons ces deux médias et les autres acteurs à continuer le système d'alerte rapide sur des personnes susceptibles d'être victimes de disparitions forcées. Enfin, notre déclaration s'insurge contre le silence des autorités burundaises face à ces crimes extrêmement graves, y compris le silence de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Et nous rappelons la nécessité d'un mécanisme indépendant de documentation des violations de droits humains au Burundi, raison pour laquelle nous appelons au renouvellement du mandat de la Commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi.
C'était Pacifique Ninina Azoué, président du FOCODE. Et puis l'arrestation de 3 militants du parti d'opposition SNL. Cela s'est passé hier vendredi dans la zone Gasabo, en commune Kayogoro. Nous sommes dans la province Makamba. Ils étaient en réunion à la permanence de leur parti selon des témoins. C'est le conseiller chargé des affaires administratives et sociales de la commune Kayogoro qui a donné l'ordre de les arrêter. Les détails avec Beni Akserakana.
Selon une source locale, Sabimana Léonard, membre du comité communal du SNL en commune Kayogoro, Cléophas Toyi et Daniel, respectivement représentants et représentants adjoints du SNL sur la colline Ngalamanyenye de la zone Gatabo, ont été arrêtés l'après-midi de ce vendredi à leur permanence zonale à Gatabo. Ils étaient en train de rassembler les contributions des membres de leur parti destinées à la construction de la permanence nationale de ce parti. Selon toujours la même source, le conseiller chargé des affaires administratives et sociales, Eric Nungwanayo, s'est introduit dans leur permanence accompagné du secrétaire collinaire du CNDD-FDD et le responsable des Imbonerakure sur la colline Gatabo. Ces derniers ont appelé la police de la position de cette zone pour les interpeller. Ces militants du SNL arrêtés sont détenus au cachot de la zone Gatabo. La même source indique que la somme contribuée et les listes des militants qui ont contribué ont été saisies. Vous saurez que 4 autres militants du SNL avaient été arrêtés la semaine dernière, accusés de collecter illégalement les contributions, malgré que le ministère en charge de l'Intérieur avait été informé de cette activité. Ils ont quitté le cachot du commissariat communal de police à Kayogoro après avoir payé une somme de 10 000 francs d'amende chacun. La rédaction de la radio Inzamba a contacté par téléphone le conseiller chargé des affaires administratives et sociales, Eric Nungwanayo, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions.
Autre province, autre arrestation, à Bubanza, c'est un habitant de la colline Kirengane en commune Manda qui a été appréhendé dans la nuit de ce vendredi. Il est accusé d'avoir mis enceinte une élève de la localité selon des témoignages recueillis sur place. Les défenseurs des droits de l'enfant demandent que cet homme soit sanctionné conformément à la loi si sa culpabilité venait à être prouvée. L'administration et la police font savoir qu'une enquête sur son dossier est déjà ouverte. Prosper Akizimana, surnommé Gisiga, n'est plus au Burundi selon les informations parvenues à la radio Inzamba. Cet homme d'affaires accusé de trafic de stupéfiants avait été emprisonné puis libéré provisoirement après avoir versé une caution de plus de 700 millions de francs burundais. À ce propos, Maître Janvier Bigilimana fait remarquer que le code pénal prévoit une libération provisoire avec caution. Toutefois, ce spécialiste du droit précise que pour le cas de Gisiga, il y a eu violation flagrante de la loi puisque c'était bien spécifié lors de sa libération qu'il ne pouvait pas dépasser les frontières du pays. Suivez Maître Janvier Bigilman.
Dans le cas de Monsieur Gisiga, si on apprend qu'il a déjà quitté le Burundi, c'est qu'il y a eu violation de la loi et plus particulièrement des dispositions tu as été prise par le juge, parce qu'une mesure prise par le juge doit être respectée, que ce soit par les autorités policières, que ce soit par les autorités politiques, et en vertu de l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux autres pouvoirs, une indépendance qui est théoriquement garantie par la Constitution de la République du Burundi, on ne comprend pas comment, et en violation de cette mesure qui avait été prise par la justice burundaise, on a osé permettre à ce présumé délinquant à pouvoir quitter le territoire du Burundi en violation de cette mesure qui était déjà en vigueur. Nous demandons donc aux autorités judiciaires de pouvoir se ressaisir au cas où ils auraient été impliqués dans la violation d'une mesure qu'ils avaient prise, mais au cas contraire, si ce sont les autorités politiques, notamment celles relevant des corps de défense et de sécurité, ainsi que les autorités politiques, elles doivent aussi savoir que la loi doit s'appliquer de la même façon pour tous les citoyens, et il n'est pas normal qu'il y ait des Burundais, quel que soit leur statut social ou politique, qui puisse être au-dessus de la loi.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie. Il est important de savoir que les personnes vaccinées peuvent être contaminées et peuvent contaminer à leur tour les autres.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
On en vient à cette pénurie d'essence au chef-lieu de la province de Muyinga, une situation qui vient de durer plus d'une semaine. Conséquence, certains transporteurs ont revu à la hausse le ticket, surtout dans les transports en commun sur certains axes. Le point avec Vanessa Muhiteka.
Cette pénurie de carburant de type essence en provenance de Muyinga s'est manifestée depuis le milieu de la semaine passée. Des conducteurs de véhicules affectés au transport rémunéré des personnes et les taxis motards se réunissent en masse aux rares stations-service qui avaient encore de l'essence pour s'approvisionner, selon la source de la radio Inzamba à Muyinga. À la fin de la semaine écoulée, 2 à 3 jours s'écoulaient sans aucune goutte d'essence. Le marché noir s'est vite improvisé. Une bouteille en plastique d'une capacité d'un 1,5 litre coûte 5 000 francs. Cette pénurie intermittente d'essence a des conséquences néfastes sur les voyageurs. Certains transporteurs ont revu à la hausse le ticket de voyage sur certains axes. Les chauffeurs ont majoré le ticket de 500. C'est sur notamment les axes Muyinga-Ngozi et Muyinga-Chankuzo où le ticket est passé respectivement de 5 000 à 5 500 et de 6 000 à 6 500 francs. Interrogés, les vendeurs du carburant aux stations-service ignorent les raisons de cette pénurie. Les usagers des stations-service, quant à eux, demande à l'autorité compétente de prendre des mesures qui s'imposent avant que la situation ne s'empire.
Une nouvelle brève avant de passer au mini-magazine au cœur de la société. Le parti UPRONA, proche du pouvoir de Gitega, est dirigé par de nouveaux organes depuis ce samedi. Olivier Nkurunziza est le nouveau patron de cette formation politique. Il a été élu lors d'un congrès ordinaire tenu ce samedi à Bujumbura. Il remplace Abel Gachatsi en fin de mandat statutaire dans le parti UPRONA. Place au mini-magazine au cœur de la société, les téiculteurs s'expriment sur la récente mesure portant l'augmentation de 30 francs sur le prix d'un kilogramme de feuilles vertes de thé. Au cœur de la société est présenté par Émile Nibasumba.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Le gouvernement du Burundi a fixé à 280 francs le prix d'un kilogramme de feuilles de thé au cours de la campagne 2021-2022. Le prix du kilogramme était jusqu'ici à 250 francs. Dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 14 août 2021, nous recueillons les réactions des théiculteurs. Vous êtes avec Émile Nivasumba. Bienvenue.
Améliorer la qualité d'originage du thé pour avoir un bon prix au niveau mondial.
Le thé, c'est l'une des cultures d'exportation qui rapporte des devises pour le Burundi. Dans la conférence de presse de ce vendredi, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Deogi de Rurema, a dit que malgré que les prix sur le marché international ne se sont pas améliorés, le gouvernement décide de revoir à la hausse le prix d'un kilogramme de feuilles de thé.
Le gouvernement du Burundi, au cours de cette campagne 2021-2022, vient de prendre la mesure d'augmenter le prix aux producteurs. Ainsi, le prix par kilo de feuilles vertes est passé de 250 à 280 francs bouts, soit une augmentation de 30 francs par kilo. Aussi, il est prévu d'autres avantages au cas où la situation s'améliorerait.
Comment les théiculteurs ont-ils réagi? Nos confrères de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance ont parlé aux théiculteurs de Mugamba dans la province Bururi, de Gisozi et Rusaka à Mwaro et de Mugongomanga à Bujumbura rural.
Par rapport à cette hausse des prix d'un kilogramme de feuilles vertes dotées, nous sommes reconnaissants de ces efforts de l'État même si la somme n'est pas suffisante. C'est mieux que rien quand même. Nous espérons que l'État va continuer dans ce sens à soutenir les agriculteurs. Nous avons apprécié ce geste. Personne ne devrait être ingrat.
Le théiculteur est vraiment exploité. Il reçoit des miettes si on considère la cotation du thé du Burundi sur le marché international. Le prix d'un kilogramme de feuilles vertes de thé devrait être revu à la hausse jusqu'à 600 francs bouts ou même 650 francs bouts. Ceux qui profitent de cette culture existent, mais pas un théiculteur lambda.
C'est une simple distraction. Un théiculteur ne gagne rien. Si on considère ses efforts le jour de la cueillette des feuilles vertes, les habits qu'il porte le jour de la cueillette qui doivent être à usage unique et l'humidité qu'il doit affronter, le prix d'un kilogramme devrait être fixé à au moins 500 francs bouts.
Cet agriculteur parle également des défis rencontrés.
Aujourd'hui, le travail dans les champs se rémunère 3000 francs par jour et personne ne peut cueillir jusqu'à 10 kg par jour. Pratiquement, celui qui fait la cueillette des feuilles vertes perçoit presque la totalité des dividendes. Autre chose, dans un même terrain, un terrestre est loué d'être satisfait par rapport à un cultivateur de pommes de terre.
Le gouvernement devrait faire des échanges avec le TB pour améliorer le prix du thé, pour que les théiculteurs puissent aisément produire une grande et meilleure qualité. Les 30 francs bouts ne signifient rien comparativement aux efforts des théiculteurs.
Le gouvernement devrait les faciliter dans la cueillette du thé en leur donnant des bottes appropriées pour éviter d'être mordus par les serpents. Il faut aussi de l'engrais chimique pour augmenter la production du thé dans ces champs. Plusieurs y sortent avec des maladies, leurs habits déchirés, avec la probabilité de croiser des animaux dangereux.
Sur le marché international de Mombasa, le thé burundais s'est vendu à 3,5 dollars par kilogramme, c'est environ 7000 francs burundais. Or, un kilogramme de thé exporté est produit à partir de 5 kg de feuilles vertes qui rapportent aux théiculteurs 1400 francs burundais. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Émile Nivasumba. Au revoir.
C'était l'émission au cœur de la société.
Comme chaque samedi, nous terminons par la revue de la presse. Elle est présentée par Blaise Nijimbele.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue chers auditeurs à cette revue de presse que nous commençons par le domaine du tourisme. L'Office national du tourisme supprimait l'avenir du tourisme hypothéqué. C'est une question que se pose le journal Iwachu. Depuis 1972, date de sa création, l'Office national du tourisme avait un pouvoir de gestion autonome. Le 9 novembre 2020, le décret présidentiel en a décidé autrement. L'Office national du tourisme est remplacé par la Direction générale du tourisme, gérée par le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme. Ce changement a suscité des inquiétudes au sein des employés de l'ONT, car le décret créant la Direction générale du tourisme n'a pas précisé son cahier de charges en matière d'aménagement et de gestion des sites touristiques. Les interrogations sont multiples, notamment sur celui qui va superviser les aménagements des sites suivant les normes touristiques, ainsi que celui qui va encadrer les hôtels et autres infrastructures touristiques. Le décret qui a créé la direction ne se prononce pas là-dessus. Page refugiée de cette revue. Le journal en ligne SOS Media s'est rendu en Tanzanie pour s'enquérir des dessous du transfert des réfugiés burundais du cas de Mutenderi vers Nduta. Le travail de transfert des réfugiés burundais de Mutenderi vers Nduta a commencé à la fin du mois de juillet 2021. Deux semaines après le début de l'activité, une mission d'observation a été dépêchée par Genève pour contraindre le RACR et les autorités tanzaniennes à suspendre momentanément son travail. Deux responsables ont été envoyés, ils ont mené discrètement des enquêtes. Ils voulaient savoir si le réfugié était transféré par force ou par volonté et recueillir leurs avis par rapport à ce transfert. Le réfugié interrogé par les deux responsables n'ont pas mâché les mots, selon le journal. Ils ont dit que le RACR et les autorités du cas leur ont imposé d'accepter le transfert ou alors de rentrer au Burundi. Les choix étaient clairs, précise le journal. Au lieu de rentrer au Burundi, ils ont préféré aller mourir en Nduta. Les deux émissaires onusiens ont donné leurs avis et le transfert a été momentanément suspendu. Les officiers pensent que les agents du RACR et les autorités tanzaniennes avaient menti au siège que le transfert était volontaire. Clôturons cette revue par la page économie où le journal Burundi Eco écrit sur l'innovation dans la fabrication du charbon écologique. Un groupe de 13 jeunes regroupés au sein de la coopérative Amakara Bio innove pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Juste Edith Aguila, un jeune membre de la coopérative, a été inspiré par l'expérience tirée de la Chine où il était parti suivre les études de médecine. Au nombre de 13, ces jeunes se servent des déchets comme matière première. Les activités ont débuté en mars 2020 et 5 mois après, ils ont commencé la commercialisation de leurs premiers produits finis. Pour obtenir le charbon écologique, ils se servent de la paille, des déchets de bananes et de maïs, etc. L'opération passe par la collecte des déchets, la carbonisation, le mélange et le moulage. Le produit peut brûler plus de 8 heures et coûte entre 600 et 800 francs burundais selon la quantité. Voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous bouclons cette revue de presse. Je vous souhaite de passer les meilleurs moments là où vous êtes. Merci, au revoir.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
C'est par cette revue de presse que s'achève cette édition. Merci de votre attention. Passez un excellent week-end. Au revoir.